Pour ce premier hors-série, nous allons essayer de répondre à un questionnement. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on arrête le jeu de rôle? Qu'est-ce qui nous transforme en anciens rôlistes plutôt qu'en vieux rôlistes? Non pas un éloignement dû à la vie de couple ou à un travail envahissant, mais une vraie rupture. Qu'est-ce qui nous pousse à franchir le Rubicon? Et surtout, quand est-ce qu'on mange? Pour répondre à toutes nos questions, nous recevons Eric Nedan. Bonjour Eric, comment vas-tu?
Bonjour Cobal, ça va bien? Et je vais répondre à ta question, mais j'ai peur que du coup tu me vires de ce chat parce que on mange vers 7h30, 8h à la partie de jeu de rôle à laquelle je me rends.
Alors,
Parce que j'ai pas complètement arrêté en fait.
j'aimerais retracer avec toi un petit peu ton parcours rôliste pour savoir quand ça a commencé, à quel âge, tout ça.
D'accord, alors ça a commencé, j'avais 11 ans. J'avais vaguement entendu parler de la boîte rouge de Donjons et Dragons, puisque j'avais eu entre les mains le jeu électronique de Donjons et Dragons, dont personne ne se souviendra, à part les gens qui ont vu la boîte que j'ai trouvée beaucoup plus tard et que j'ai acheté par nostalgie très cher sur eBay, qui était un jeu électronique idiot des années 80, donc vous imaginez tout qui fait bip, bip, etc., et puis des musiques en MIDI impressionnantes, où on essayait de trouver un trésor sans se faire attraper par le dragon.
D'accord.
C'était même pas, il n'y avait même pas d'écran, enfin, c'est un truc assez bizarre, hein, que je suis sûr qu'on peut trouver sur Google si on veut avoir une idée de ce que ça donne. Et j'avais donc entendu dire que Donjons et Dragons, c'était un jeu, le vrai jeu Donjons et Dragons, était un jeu nettement plus intéressant. Et sans trop savoir ce que c'était, je me suis débrouillé pour avoir un peu plus d'argent de poche que prévu de la part de mes parents. Ou alors c'était peut-être pour un anniversaire, je suis pas sûr. Et j'ai donc acheté cette boîte et j'ai trouvé 3 livres, un crayon gras comme on faisait à l'époque et des dés étranges. Et voilà.
D'accord, et c'était une boîte en VO et tout?
Non, c'était en... Tu parles, j'avais 11 ans.
Oui, je me disais.
C'était la traduction française, la première. Je pourrais pas te dire, si tu me laisses 2 minutes pour aller chercher dans mes étagères, je pourrais te dire, mais que j'ai encore, évidemment.
Oui, bien sûr. On ne jette pas ce genre de choses. Enfin, on le
Non.
revend pas sur eBay, une fortune.
Non plus.
Et par la suite, tu as joué beaucoup.
J'ai joué, je pense avoir joué avec la boîte rouge, puis la bleue, pendant un certain nombre d'années avec mes petits camarades. Il y a Cassius Belli qui est arrivé par là. On parle de 83, 84,
D'accord.
Les premiers jeux, les Cthulhu, les Empires Galactiques, etc. Donc c'était un peu dans notre petit groupe avec mes camarades d'école. Et puis ensuite j'ai intégré un club dans la petite ville d'à côté de ma petite ville à moi, où là on jouait tous les samedis et j'ai découvert d'autres choses. Un certain nombre de jeux en anglais, puis il y a eu Star Wars, et puis il y a eu Red de Dragon, et puis Stormbringer. La grande époque héroïque de
Oui.
tout le monde faisait du jeu de rôle et
Et où tous les grands classiques sortaient les uns après les autres.
on dépensait tout notre argent de poche dedans.
Et qu'est-ce qui t'a entraîné dans le milieu professionnel du jeu de rôle?
C'est un peu, ça passait un peu par hasard, pour être honnête. J'avais découvert Feng Shui, qui est donc un jeu que la plupart des gens connaîtront sans doute. C'est le jeu des films d'action de Hong Kong, un jeu qui était assez novateur
Oui.
à l'époque, en 96, 97, si je dis pas de bêtises. J'avais découvert dans sa VO. J'étais devenu extrêmement fan. Je participais un peu au forum, au mailing list même. Je suis même pas sûr qu'il y avait un forum à l'époque. Avec les Américains, les auteurs, etc. Et je connaissais bien le jeu et j'ai appris fortuitement dans une boutique où je me rendais régulièrement que le jeu allait être traduit par Henri Flamme. J'ai donc envoyé un mail en disant hey, je suis fan, je peux vous aider si vous voulez. Je connais bien le jeu, je peux écrire des scénarios pour Cassius Clay. Et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de la traduction et puis ensuite à être engagé chez Oriflam à un moment où je cherchais du travail et où ils avaient besoin d'aide. Et petit à petit à écrire de plus en plus.
D'accord. Et donc tu as écrit pour quels éditeurs en tout dans ta carrière?
Pas pour tant que ça, j'ai écrit beaucoup pour Henri Flamme, donc il y a eu la grande période Archipel à laquelle je crois tu es quelque peu familier,
Il me
n'est-ce
semble
pas?
aussi.
On peut faire genre, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se parle, mais ce serait idiot. Ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais dû réviser un peu. J'écris.
Je t'avais prévenu pourtant.
Ouais, j'avais un scénario à préparer pour ce soir. Ouais. que je faisais jusqu'à maintenant. Beaucoup d'oriflammes, pas mal de gammes, donc. J'ai écrit un tout petit peu avec Septième Cercle. Je devais travailler sur Chine, puis finalement ça s'est pas fait, mais je leur ai fait des scénarios pour Anunnaki, leur journal slash magazine.
Oui.
Et j'ai écrit chez Soleil, puisque je me suis occupé du jeu de rôle Lanfeust, 2-3.
Oui, dans le feu, ça.
Puis j'en oublie sans doute, mais il y a des trucs qui sortiront peut-être un jour chez d'autres éditeurs, mais qui sont toujours pas finis, 6 ans plus tard ou 7 ans plus tard. Je préfère pas donner de nom. Voilà, je sais pas, tu penses à des trucs auxquels je pense pas? Ah bah oui, attends, bien sûr, j'ai quand même travaillé avec les copains de John Doe.
Ah mais oui, évidemment, pour le
Voilà, le
DK.
système de lanceuse de 3, qui était un D20 que j'avais allégé en compagnie de mes camarades Pat et Chris, qui ont quand même coécrit le bouquin avec moi, a beaucoup plu à John Grumph, qui m'a dit ça serait bien qu'on en fasse quelque chose un jour. Et il a fait, comme il fait souvent, un petit bouquin en PDF avec tout ce qui lui plaisait dedans, avec un petit univers à lui. Puis finalement, c'est devenu, quand John Doe est arrivé, c'est devenu un véritable jeu qui a connu une deuxième édition avec des règles qui ont été bien amélioré par une nouvelle équipe, le DK2, qui est un peu compliqué pour moi, je t'avoue.
Bah, moi, j'ai une préférence pour le DK1 à cause de la liste des archétypes piochés dans tous les
Ouais.
univers possibles et imaginables, avec à chaque fois un exemple Medfan, un exemple contemporain et un exemple
Et tous
futur.
illustrés par Grumph, qui sait pas
Ouais,
s'arrêter.
qui a fait des millions de portraits de PNJ. Alors, étant donné que tu viens d'avouer que tu étais en train de préparer ta partie, tu n'es pas vraiment un ancien
Ben
rôliste.
non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelque chose comme 4 ans, je m'étais pas mal investi pendant un moment dans l'écriture de BD. J'ai monté des dossiers avec des gens, des anciens potes rencontrés chez Oriflamme, et d'autres gens aussi. Des trucs qui finalement se sont jamais faits. Et puis donc ma période de après Oriflamme, j'ai eu une période de travaillant pour moi-même, donc de freelance, où j'étais parti pour écrire de la BD, et puis finalement, comment dire, j'ai pris le chemin de la facilité et j'ai continué à écrire du jeu. Donc en freelance, puis j'ai fait mes petits trucs, j'ai fait Stormbreaker aussi, un petit
Oui.
jeu PDF avec des vikings dans l'espace, que vous pouvez trouver sur Internet si vous cherchez. C'est gratos maintenant. Et qu'est-ce que je disais moi du coup? Oui, et j'étais aussi en train de me dire qu'il fallait que j'écrive des romans parce que ce serait le moyen le plus simple d'avancer à mon rythme et de pas avoir des problèmes pour trouver des dessinateurs, motiver des dessinateurs.
Oui, où tu puisses fonctionner tout
Voilà,
seul.
et faire créer mes petits univers à moi et mes personnages à moi, etc. Et je me suis rendu compte à un moment que le jeu de rôle prenait beaucoup de place dans mon esprit. Je crois que j'avais utilisé le mot RAM à l'époque, RAM.
Oui.
Que, ben, par exemple, en voyant un film, je vois un film d'arts martiaux des années 70, je me dis, ça serait cool de faire un jeu qui se passerait à New York en 1970, où il y aurait un problème entre les triades et puis on pourrait mettre de la musique funky derrière, tout ça serait cool. Et finalement, je me rendais compte que ben, je fonctionnais beaucoup en mode rôliste dans ma tête, comme beaucoup d'entre nous, et comme beaucoup des 99,9% des gens qui nous écoutent sans doute. Et étant donné que mon but n'était plus d'écrire des jeux de rôle, mais d'écrire autre chose, je me suis dit à un moment, il faut que je coupe les ponts. Donc ça doit être quelque part sur mon blog, sur une archive du blog. J'ai fait un petit départ en disant, bon ben, pendant les 3 mois qui viennent, je sais plus, je vais plus poster sur les forums, je vais arrêter de maîtriser des scénarios, j'irai jouer quand même à ma campagne hebdomadaire, Futur DK, je crois que c'était à l'époque. Mais c'est tout ce que je ferai, je veux devenir un rôliste consommateur et je veux plus passer tout mon temps à me dire ah, et peut-être qu'avec un système D6 plus D4 et on pourrait mettre des cartes dedans et des osselets, du coup ça ferait un truc vachement fun. Et je me suis dit que ça me libérait un peu de RAM. À cette époque-là, j'avais moins de temps, j'avais un vrai boulot. Et il fallait que je me concentre un petit peu. Voilà.
Avec ton nouveau métier, en quelque sorte, d'auteur de romans.
Ouais, métier, on dira ça quand j'en aurai vendu un.
Oui, en tout cas, tu fais tout ton possible pour que ce
Ouais.
soit le cas. Donc tu as plusieurs livres en préparation, il me
Oui.
semble. Je crois que j'en ai vu au moins deux ou trois.
Y en a officiellement deux que je vais essayer de vendre à des éditeurs. Il y en a un troisième que j'ai écrit pour NaNoWriMo, donc le concours national entre guillemets américain des écrivains de romans en un mois. Un truc un peu fou qui se fait tous les mois de novembre, on écrit un livre en 30 jours. J'ai fait ça et puis en plus je me suis donné le défi de le publier directement sur mon blog, commune.com pour ceux que ça intéresse. Et voilà, donc c'est pas forcément de la grande littérature, il y a sans doute encore plein de choses qu'il faut modifier, mais ça, je reviendrai dessus dès que j'aurai un moment, cet été sans doute, et j'en ferai un vrai PDF que je vendrai peut-être à 1 € ou un truc comme ça, une fois que je serai sûr que c'est à peu près potable. Mais à part ça, donc j'ai deux autres romans, une fantasy, une de science-fiction, qui sont. Le premier, c'est de la fantasy jeunesse. C'est très inspiré Archipel, en fait. C'est dérivé d'une nouvelle, puis d'une BD que j'avais écrite dans l'univers d'Archipel.
D'accord.
Même si l'univers a été transposé, mais c'est toujours des histoires de gobelins, de pirates et d'ogres mercenaires en armure de plaque.
Avec toujours des cascades
Oui.
et des choses
Des genoux
grandioses.
idiots et des îles qui explosent. Ça, c'est chez les éditeurs, donc. Et l'autre, bah, c'est Star Drakkar, en fait. Parce que quelqu'un m'a dit l'été dernier que, alors que j'étais entre deux projets, je savais pas trop sur quoi j'allais bosser,
Ouais.
un copain m'a dit comme ça, au détour d'un email, que Star Drakkar ferait sans doute un bon roman. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il a pas tort, l'univers est tout écrit, je pourrais torcher ça en 2 mois et voir ce que ça donne. Ce que j'ai fait, j'ai pris 15 jours pour écrire un synopsis et j'ai
D'accord.
plongé dans l'histoire. Je le paye un peu en ce moment parce que je suis en train de retravailler le texte, de faire la réécriture et il y a des moments où ça part un peu dans tous les sens, il faut que je retravaille le truc, mais ça reste assez fun quand même. Ou de la
D'accord.
science-fiction idiote avec des vikings dans l'espace.
Mais finalement, tu restes ancré dans le jeu de
Oui,
rôle, dans tes
oui.
univers.
Bah, je sais pas si c'est parce que j'ai vécu dedans pendant très longtemps. Archipel, ça a quand même duré des années et des années. Star Drakkar, c'est une bonne année, je pense, entre la gestation, la promo, etc. Et puis le fait de jouer, les tests, etc. Et ouais, c'est des trucs qui sont super présents, en fait, dans ma tête. Et quand je pense à raconter une histoire, plus facile de partir vers les univers que je connais déjà. Ceci dit, j'ai d'autres projets. Mon premier projet de roman, celui que j'ai encore jamais écrit, mais que j'ai proposé d'abord à des éditeurs, c'était un univers complètement à part, complètement
Oui.
nouveau que j'écrirais un C4, mais c'est peut-être un peu trop ambitieux pour que je l'écrive tout de suite. J'ai préféré me faire la main sur des choses plus faciles d'abord.
Faisant d'abord un sourcebook des
Oui.
cas.
Comme ça, j'aurai 14 fans et je pourrais peut-être vendre 7 livres. Donc ça, les éditeurs, ils vont me signer tout de suite. Non, désolé, ami rôliste, je ne veux pas dire que vous êtes 14, je sais que vous êtes au moins 23.
Donc, il y a un truc que j'avais entendu il y a quelques années. Tu sais, il y a Tristan Lhomme qui avait écrit un roman Néphilim, et il disait que ces personnages lui échappaient. Chose qui ne se produit pas vraiment quand tu écris du scénario de jeu de rôle.
Ah non, parce
Alors, est-ce
que.
que ça t'est arrivé aussi?
Ouais, ça arrive. Et je suis en train de préparer, enfin de réfléchir plus que de préparer un ou plusieurs articles sur justement ce sujet-là, l'écriture entre le jeu de rôle et l'écriture romanesque. En tout cas,
Oui.
de mon point de vue à moi. Et il y a pas mal de choses qui se recoupent. Si les personnages. Quand tu écris un scénario de jeu de rôle, les personnages ne t'échappent pas pour la bonne raison que tu les connais pas. Tu sais pas du tout, tu n'as qu'une idée, une vague idée de qui ils seront. Et c'est en partie qu'ils vont t'échapper. Et là, complètement. De toute façon, tu sais que tu peux rien y faire.
À la rigueur, les PNJ peuvent t'échapper si tu te mets à les jouer en cours de partie et que tu leur
Ouais,
crées une
c'est vrai.
personnalité sur le
C'est vrai.
vif.
J'improvise pas mal. Quand je maîtrise aussi, donc c'est vrai que je pars parfois avec des personnages complètement accessoires que j'improvise sur le moment, qui se retrouvent être super importants pour l'intrigue. Et c'est pareil en écriture. Hein. Plus tu, c'est la même chose que dans le jeu de rôle. Plus tu as préparé ta partie à l'avance, et plus le déroulement de la partie en elle-même sera contrôlé, mais aussi emmerdant.
Oui,
Et
bah
c'est
oui.
pareil si tu fais un synopsis de 100 pages pour 300 pages de bouquin avec tout minute par minute. tu risques de t'emmerder un peu, mais au moins tu partiras pas en vrille. Et si au contraire tu n'as que deux pages de synopsis, voire pas du tout, tu as aucune idée d'où ça va aller, mais tu peux te retrouver coincé dans un cul-de-sac. Ah ben zut, j'ai tué tout le monde, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais il y a vraiment plein de parallèles, et j'ai bien l'intention d'y réfléchir un peu plus.
D'accord.
Il y a un truc aussi, pour parler d'écriture de romans quand on vient du jeu de rôle, et je me
oui.
demande si ça pose des problèmes aux autres gens qui viennent du jeu de rôle comme moi, et Dieu sait s'il y en a pas mal, qui se sont essayés ensuite à l'écriture de romans, c'est que justement, en jeu de rôle, on connaît pas les personnages, donc on écrit des univers. Et quand on écrit un scénario, c'est une suite d'événements, ou alors, comme tu dis, un bac à sable, on peut mettre une timeline avec les PNJ font ça le lundi et ça le mardi, puis le mercredi c'est la fin du monde. Mais on prend pas du tout en compte les motivations et les actions des personnages. C'est le truc qui m'a posé plus de soucis quand j'ai commencé à vouloir écrire un roman, c'est il faut se mettre dans la tête du personnage, il faut le connaître à fond, il faut savoir quel est son passé évidemment, mais quelles sont ses motivations, ce qu'il va faire, comment il va se transformer au fur et à mesure du récit, parce qu'un héros qui ne se transforme pas, c'est James Bond, et c'est pas intéressant. Je parle du James Bond des films, des premiers films. Maintenant, ça s'améliore un peu. Et du coup, ça m'a demandé de désapprendre beaucoup de ce que je savais de l'écriture et de la conception d'une histoire.
D'accord. Parce que oui, finalement, tu n'as plus à attendre que... Enfin, il ne faut pas que tu attendes que les personnages agissent
voilà.
d'eux-mêmes.
Et il ne faut pas que j'écrive un univers et que je colle des personnages dedans. Si j'écris une histoire qui peut accommoder... un paladin royal bon et un assassin chaotique mauvais de la même façon, c'est pas une bonne histoire.
Oui, oui.
C'est ce que je veux dire. Donc ouais, ça, c'est... j'ai encore beaucoup de mal. j'en bave encore un peu, mais bon, je pense que tout tard, je m'en sortirai.
Et tu as fait les fiches de perso de tes PNJ.
Ils ont pas de carac, c'est ce que tu veux savoir. Mais ouais, j'ai une vague idée de ce qu'ils savent faire quand même. Ils ont un background, ça, évidemment. Ils ont des forces et des faiblesses, des motivations. S'il fallait leur donner des carac, je pourrais.
Ah, et est-ce que tu t'intéresses encore un petit peu au milieu du jeu et des gens qui sont là, ce qui se passe, ce qui sort en ce moment, enfin voilà les
j'ai un peu honte, mais je veux pas que ce soit mal pris non plus, mais je reçois mes news par Cassius Belli en ce moment.
C'est très bien.
C'est très bien, je sais. Mais c'est assez marrant parce que quand Cassius Belli est arrivé à ressusciter au mois de novembre dernier.
Oui.
Je me suis rendu compte que quelques années auparavant, j'aurais fait, mais attends, c'est quoi? C'est 15 pages de news dont on n'a pas besoin. Voyons, on est sur les forums en permanence et on suit l'actualité. Et tout ça, on le savait il y a 3 mois déjà et bah, plus maintenant. Donc, je suis très content qu'il y a des trucs qui vont sortir. Et puis, je connais encore beaucoup de gens dans le milieu. Donc, je vois passer des choses sur Twitter ou ailleurs, sur Facebook. Et puis, je me rends au monde du jeu pour voir les copains.
Et donc, vu que tu as gardé quelques contacts et tout ça, qu'est-ce que tu perçois du monde du jeu de rôle actuellement ?
Bah, c'est marrant parce que plus il y a de gens qui disparaissent et plus il y a de gens qui apparaissent. J'ai l'impression que le nombre d'éditeurs a augmenté, non ? C'est 3 ou 4 dernières années. Même si on parle quasiment plus que de micro-éditions ou alors de départements mineurs d'éditeurs qui font autre chose, on a quand même pas mal de sorties. Est-ce qu'il n'y a pas plus de jeux qui sortent en France que dans les pays anglophones ?
Peut-être.
Tu vois des trucs comme Les Ombres d'Esteren, des bouquins complètement magnifiques.
Oui.
Ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas comment font ces gens.
Disons, il y a aussi maintenant pas mal de moyens techniques qui font qu'il est très possible de diffuser du jeu à moindre coût. Et donc, du coup, ça s'est multiplié. Puis c'est vrai qu'il y a des petits éditeurs super actifs, genre John Doe, qui ont un côté quasi associatif dans leur démarche, en fait. C'est-à-dire, ils comptent pas sur le jeu de rôle pour...
Ça, c'est la grande erreur de beaucoup de gens pendant les années 2000, hein, je dirais. Donc, ouais, je me tiens au courant vaguement de ce qui sort. Je vois passer des jeux. La campagne que je maîtrise en ce moment, ça a commencé sur Tranchons et Dracons 2, qui m'a bien plu à la lecture. Puis finalement, j'ai évolué sur un système à moi, parce que les points de vie, c'est quand même fatigant en fin de soirée. Alors, la liche, il en reste encore 25. Il est minuit et demi, on est mercredi soir et tout le monde bosse demain matin. Ça va pas être possible. Allez, on va faire un jet général pour voir si vous l'avez. Donc finalement, je suis passé sur un truc un peu plus freeform. Mais
D'accord. Et c'est quoi les jeux que tu attends?
Je sais pas. Attends, qu'est-ce que j'ai vu dans Cassius l'autre jour qui me disait bien? Oui, il y a le jeu du Grumpf dont le nom va m'échapper évidemment. Émile Marche. Ah, je me suis souvenu.
Les mille
Émile
marches.
Marche, ouais. J'en sais pas plus. J'ai juste vu la preview, mais connaissant le bonhomme, je pense que ça va être fun. Ça va encore être plein d'animaux humanoïdes
Bizarre.
et ça va être un peu encore une ménagerie, mais j'aime bien. Voilà, et après c'est tout, mais il y a sans doute plein de jeux dont je suis pas au courant de la sortie.
Et le fameux Bloodlust Metal.
Ouais, mais alors là, au bout d'un moment, les gars, on n'y croit plus, non, je déconne. Bloodlust Metal, j'ai pas une grande histoire d'amour avec Bloodlust, première édition. J'ai un peu joué, j'ai des bons souvenirs de partie, mais je suis pas un fan conditionnel de l'univers. Donc oui, je vais lire, parce que je suis assez curieux de voir comment le système tourne aussi, même si j'ai fait une ou deux parties de test avec un autre univers il y a bien longtemps.
D'accord.
Je suis quand même curieux de voir aussi ce qu'ils en ont fait. Ça fait quand même longtemps qu'on en entend parler.
Eric, tu vois quelque chose d'autre à rajouter?
Mais si peut-être pour revenir sur le sujet de l'ancien rôliste, je pense qu'on reste toujours rôliste dans sa tête, qu'on a toujours envie de raconter des histoires et de participer à des histoires, donc qu'on le fasse de façon pseudo-professionnelle, en essayant d'écrire des romans, enfin en écrivant des romans et en essayant de les faire publier. Ou qu'on le fasse en faisant du roleplay sur World of Warcraft, je pense qu'on est tous, nous, tous les gens qui avons passé suffisamment de temps à lancer des dés autour d'une table, on sera jamais complètement guéri, hein, c'est pas possible.
Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons clore cette interview. Merci beaucoup, Eric. Cela m'a fait très plaisir de t'avoir dans notre
Mais
podcast.
merci à toi, je suis très honoré.
Eh bien, à peut-être bientôt autour d'une table.
Oui, c'est possible.
Allez, ciao!
Alors salut, cobaye.